Africa Radio et nous.
Dieneba Dembélé.
Mieux vivre au XXIe siècle.
Cette semaine, dans Mieux vivre au XXIe siècle, on échange avec Julius Amédée Lahou, qui est cinéaste, écrivain entier, auteur du livre La Métropole, le pays des grands et beaux Bwana, un appel à la fraternité de tous les peuples. Avec lui, on va parler de la façon dont on peut mieux vivre entre communautés en France. On verra quelles sont ses solutions, ses pistes, ses idées, sa vision de notre pays, la France, pour lutter contre toute forme de discrimination et de racisme. Julius Amédée Lahou, bonjour.
Bonjour, Dieneba.
Vous avez pas mal de cordes à votre arc. Hein. Vous avez notamment réalisé Solitaire à micro ouvert.
Oui, un petit court-métrage qui a eu l'honneur d'avoir pris au Festival de Venise. Oui.
En 1980. Vous êtes dramaturge, metteur en scène de théâtre. Vous souhaitez aujourd'hui nous parler de cet ouvrage que vous avez écrit, et pas des moindres, plus de 600 pages, La Métropole de Pays des Grands et Beaux Bwana. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire cet ouvrage ?
Je suis grand-père maintenant.
Félicitations.
Six petits-enfants. Ouais. Et je fais un petit constat des lieux. Je suis né à Paris, je suis d'origine martiniquaise. Mes quatre grands-parents viennent du même village en Martinique, qui s'appelle le Gros Morne. Ouais. Et ma famille est installée à Paris depuis plus de 100 ans, figurez-vous. Ouais. Depuis que mes grands-pères ont eu la magistrale idée de s'installer à Paris. Après leur guerre de 14-18, ils ont fait la guerre. Ouais. Puis ils disent, bon, pourquoi retourner en Martinique ? Et donc ma famille a fait souche ici, mais plus parisien quoi.
Oui.
Mes filles et mes filles sont à Paris, on est d'après la tradition d'authentiques parisiens. Sinon des Français de souche, mais en tous les cas d'authentiques parisiens. À partir de la deuxième de génération, je crois, oui. On est d'authentiques parisiens. Et je me suis dit, il faut peut-être faire un constat des lieux sur la réalité de la condition noire.
Oui.
Dans ce pays, dans mon pays, dans notre pays. Et j'ai écrit ce livre qui fait non pas 600 pages, mais 680 pages.
Non, j'ai dit plus de 600 pages, effectivement.
<D'accord>.
Voilà, presque 700 pages.
Il y a 8 chapitres et il y a un chapitre sur autobiographique. Je parle de mon expérience à moi. Je ne parle pas que de
mais
moi.
Mais pourquoi vouloir parler de vous, de votre expérience de noir en France ? Pourquoi être noir en France, c'est le point de départ de cet ouvrage ?
Parce que malheureusement, la première fois que je suis allé dans une discothèque, j'ai eu le droit de rentrer dans une discothèque, c'est quand j'étais en Allemagne. La première femme était allemande.
D'accord.
Et j'étais très étonné de pouvoir entrer à la discothèque alors que chez moi en France j'avais pas le droit. Et puis tous mes copains blancs, tous les autres blancs, ils rentraient les mains dans les poches sans carte. Donc à partir de là on se fait, tiens c'est bizarre comment ça se fait, je suis traité c'est différemment, moi je suis français comme les autres. Un petit exemple, mais j'étais très très vraiment très choqué. On vit une situation assez particulière quand même en tant que français noir en France. C'est bizarre, pourtant c'est interdit tout ça dans les droits de l'homme et du citoyen, c'est l'égalité, la fraternité, machin truc, quoi. Alors, donc c'est à partir de 22 ans que j'ai commencé à sérieusement me poser des questions sur la réalité de la condition noire. Je me faisais régulièrement arrêter dans le métro.
Des classiques, malheureusement.
Voilà. J'ai vu une situation... Oui, c'est vous qui avez téléphoné pour l'appartement, là ? Oui, c'est moi. Ah bon ? Vous n'avez pas d'accent ? Oui, non mais c'est bête parce que l'appartement il est loué. Donc on a affaire qu'à ça, qu'à de l'hypocrisie, c'est ce que j'appelle le communautarisme blanc. Ils veulent pas de nous dans leur proximité.
On sent de l'amertume, de la dérision.
Oui,
et pourtant vous dites que votre ouvrage est un appel à la fraternité les opprimés, de tous les peuples,
parce que je crois en l'homme et parce que heureusement sur mon chemin j'ai rencontré des belles personnes qui sont pas la dominance dans ça. Effectivement. Nous sommes mis en marge. Mais néanmoins, je reste très optimiste parce qu'il y a des belles personnes partout. Il y a des belles personnes partout et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc c'est en cela que je suis optimiste pour l'avenir. Et puis je me rends compte aussi que chez les jeunes, apparemment, il y a plus d'ouverture d'esprit aussi.
Alors justement, vous parlez de fraternité. Comme je le disais, vous considérez à la fois et aussi c'est votre ouvrage comme un appel à la fraternité. Vous pouvez nous offrir votre définition de la fraternité, même si ça paraît complètement logique.
C'est le respect, c'est la bienveillance, c'est la solidarité, voilà.
Et c'est ça en fait qui manque du coup.
Qui a sérieusement manqué jusqu'à maintenant.
Comment on peut se tourner vers une France plus fraternelle ?
J'espère qu'on y va tout doucement. Faudrait nettoyer, faire expurger toutes les brebis galeuses de la police et mettre, garder des gens, parce qu'il y en a, bien heureusement, j'en connais, et, des gens qui soient, qui aient des vraies valeurs républicaines dans notre police, qui soient une police saine, fraternelle et réellement, qui aient des vraies valeurs républicaines. Moi, j'ai subi des interventions policières, j'en ai subi plusieurs, j'ai même. Verbalement musclé, j'ai droit à des insultes racistes. J'en parle dans mon livre.
Auteur de l'ouvrage La Métropole, le pays des grands et beaux, Bouana, ça vient de la langue bantoue.
La Métropole, pour moi, le terme de métropole, c'est un terme colonial.
Oui.
Parce que, mais à la base, quand vous regardez le dictionnaire, qu'est-ce que des métropoles ? Métropole, c'est le pays considéré par rapport à ses colonies. Et métropolitain, c'est écrit nom donné à un citoyen d'une métropole par opposition à coloniser. Donc, si on parle correctement français, on se rend compte que métropole et métropolitain sont des mots coloniaux. Alors, la question que je pose, c'est que ma famille qui est là depuis 100 ans, et est-ce qu'on nous sommes des métropolitains, nous ?
Pour les générations qui sont. Pour les plus jeunes générations et pour les futures générations, comment on pourrait arriver à changer ce genre d'idée ?
Déjà, il faudrait comprendre la langue qu'on parle. J'ai un chapitre dans mon livre qui s'intitule « Se réapproprier la langue française lorsqu'elle parle de nous ».
Oui.
Hein ? Et ça, c'est déjà la première démarche pour être à égalité avec l'autre. C'est déjà d'être solidaire, former des structures comme font les Noirs américains, former des structures où ils sont forts ensemble.
Oui.
Hein ? Et ensuite, prendre conscience de notre environnement. Et encore, la première arme qu'ils ont contre nous, c'est la langue qu'ils nous font utiliser et qui est une arme qui nous tire dans les pieds, dans les genoux en permanence. Mmh. Parce qu'on utilise nous-mêmes des mots qui nous assassinent. Hein, encore une fois, on utilise les termes coloniaux sans s'en rendre compte et on se fait du mal en permanence. Et lorsqu'ils vous disent communautarisme, ah oui, les musulmans c'est communautarisme, les noirs c'est communautarisme, tous les autres c'est communautarisme, eux c'est pas communautarisme.
Mais comment on peut mettre fin justement à cette notion
parce qu'il faut se rassembler, être solidaire et avoir la conscience de notre environnement et avoir conscience de quelle langue nous parlons.
Et est-ce qu'il y aurait d'autres solutions selon vous?
C'est la première.
C'est la première.
C'est pas la seule, mais c'est la première. C'est d'être ensemble et d'avoir conscience dans quel environnement on est et de quelle langue on parle. Ce qui est très important, c'est de se constituer des. Comme aux États-Unis, la communauté African-American, ils sont ensemble. Ils ont des structures super puissantes dont le pouvoir blanc tient compte en permanence.
Ici,
on n'existe pas.
Oui.
Ici, on n'existe pas, on est éparpillés, chacun tire la couverture à lui, on a des petites individualités, un petit footballeur, un petit ministre, un petit machin, un petit tiens. Il n'y a pas de structure forte qui puisse faire. Mais ça, c'est la première importance. C'est de première importance. Créer une structure forte.
Au sein de la communauté noire de France.
Sinon, on n'a pas de colonne vertébrale. C'est nous être prêts. Ouais. On fait une association, on est puissant et on décide.
Et il en existe déjà, des associations en tout cas qui représentent la communauté noire, comme le CRAN par exemple, insuffisant ?
On est décideurs, on n'est pas comme le CRAN l'a fabriqué par un parti, c'est une aberration, on se fout de notre gueule, encore une fois on est dépendant. Non, d'être souverain, on crée une association puissante où on est décideurs, on est les initiateurs, les fondateurs, avec des gens motivés, honnêtes et droits.
Ouais.
Voilà, c'est pas difficile. Donc il n'y a pas à chercher. Ah, les autres, ils vont peut-être pas être contents. On a à foutre des autres. On crée une association, on est là pour dire on existe et respectons nos droits. Est-ce que c'est un crime ? Dites-moi, mademoiselle Bdine.
Non.
Bon, ben voilà, c'est tout. On parle là-dessus.
Et ce serait cette structure qui réglerait les problèmes en matière de discrimination, de racisme, anti-noir ?
Ben oui, il y a de la ségrégation. Dès qu'il y a des postes à responsabilité dans l'emploi, la ségrégation, elle est là. Aux États-Unis, dès qu'il y a un type de problème comme ça, ils appellent
la structure.
Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Bon, on a des avocats, on procède. Il y a la presse avec nous. Ici, il n'y a pas la presse avec
nous. Donc, en gros, faudrait créer une sorte de grand lobby noir, quoi. Absolutely,
my dear. Absolutely. Big one.
Une très grande, pour ceux qui ne sont pas bilingues. Dans des centaines de pages, vous écrivez aussi sur les violences policières dans votre ouvrage. et sur les assassinats racistes. Mmh. Est-ce qu'on peut effectivement avoir sur l'antenne votre constat ?
Ben, comme j'en disais tout à l'heure, il faut expurger de notre bonne police française et de notre gendarmerie tous ces brebis galeuses qui sont, il y en a qui sont ouvertement nazis.
Oui, donc vous n'êtes pas en train de condamner la police de manière générale.
Ben, bien sûr que non.
Non, parce que pour certains, le raccourci est vite fait.
Oui, non, mais ça, c'est imbécile. Il y a plein de gens extraordinaires dans la police. Ouais. Il y a même des lanceurs d'alerte extraordinaires dans la police qui dénonce tous ces faits. Parce qu'il y a des photos où on voit dans les vestiaires de policiers et de gendarmes avec des affiches nazies, la croix gammée.
Et on se débarrasse des brebis galeuses au sein des forces policières françaises.
Ensuite, on fait une police qui a des vraies valeurs républicaines, démocratiques. Mmh. Et puis une police de proximité. Avant Sarkozy, ça marchait bien, la police de proximité.
Effectivement, il y a des candidats à la présidentielle qui reprennent
parce que là, brusquement, le contact, il est fait, les gens se connaissent, se rencontrent, et se rendent compte, on pensait que c'était,
C'est créer du lien.
Voilà, ça crée du lien, ça crée de la fraternité, de la vraie, la fraternité, une vraie police pour casser du bougnoul ou descendre du bambou là. Donc c'est de créer une belle police avec des belles valeurs, une police de proximité et les jeunes noirs, jeunes maghrébins et les policiers pour mieux se connaître et voilà donc à partir de là on démarre une société qui est un peu plus saine quoi.
Vous pensez qu'on pourrait parvenir à ce point-là?
Bien sûr, je suis optimiste.
Donc vous êtes optimiste. Comment vous la voyez? Comment vous l'envisagez cette France dans 20 ans par exemple?
S'il n'y a pas une petite bombinette qui nous tombe sur la tronche pour tout rectifier, je dirais que non, il y a des forces positives dans ce pays et puis surtout dans tous les pays quoi.
Il y a
des forces positives quand je vois il y a des mouvements de jeunes, la jeune suédoise, et puis qui est suivie dans le monde entier. Et puis, voilà.
Du coup, vous êtes aussi confiant quant à l'élaboration la possible élaboration d'une structure qui permettra à la communauté noire de France de se regrouper, de s'organiser
et... Là, je suis un peu plus mitigé parce qu'on est un peu passif, on est un peu feignant. Le seul espoir que je vois, c'est Assa Traoré, qui est extraordinaire. On n'a jamais une personne comme ça dans notre pays.
Ah oui, Victor aîné d'Adama Traoré, mort après son interpellation policière.
Assa Traoré est fabuleux, c'est une tigresse, c'est une révolutionnaire, c'est une battante. Je suis plus confiant dans la jeunesse française en général que la communauté noire, qui jusqu'à maintenant, depuis 5 ans, je vois, elle est totalement laxiste. Par contre, je pense qu'il y a une jeunesse, ma fille était au Cameroun, elle est mariée avec un Camerounais. Elle était au Cameroun, elle était très étonnée par la prise de conscience des jeunes Camerounais. Et l'engagement des jeunes Camerounais qui se radicalisent. Là, j'ai plus confiance dans les jeunes Africains que la communauté noire ici.
Vous utilisez plusieurs fois le mot humour.
Parce que je prends beaucoup de dérision dans toutes les situations que je peux vivre. Il y a les plus difficiles.
On peut rire de tout ?
On peut rire absolument de tout pour envelopper l'humour dans des contraintes. Et il y a des grandes contraintes qui sont le respect, la tendresse, la bienveillance.
Ah oui, bien sûr.
S'il n'y a pas le respect, la tendresse et la bienveillance, il n'y a pas d'humour possible.
Oui, on ne rit pas pour se moquer de l'autre.
Voilà.
Lui, ça m'aide là-haut, puisque nous arrivons au terme de cet entretien. Comment on peut se procurer votre ouvrage, La Métropole, le pays des grands et beaux Boana?
Alors, La Métropole, le pays des grands et beaux Boana, on peut l'avoir dans toutes les librairies. On peut le commander dans toutes les librairies. On peut le commander en ligne, sur tous les sites de vente de livres en ligne.
Merci beaucoup, Julius Amédélaou, d'avoir été notre invité. Que souhaitez-vous aux auditeurs pour terminer cette émission?
Eh bien, une bonne santé, de la joie de vivre. Et puis que tous les jeunes noirs forment une belle structure puissante, un vrai lobby.
En France. Et vous entendre. Merci Julius Amédélaou d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir livré un bout de vous. Passez une bonne journée à l'écoute d'Africa Radio.
Merci.
Mieux vivre au 21e siècle sur Africa Radio.